deux orphelines, deuxième partie, chapitre 10. Lorsqu'elle comprit qu'elle n'était plus sous le regard de son bourreau, Louise s'abandonna à sa douleur. Elle pleura longtemps, silencieusement, étouffant ses sanglots. La malheureuse, qui d'un seul coup avait vu ses espérances s'évanouir, demeurait comme anéantie sous le coup de l'immense déception qui lui arrivait. Elle avait cru si complètement aux promesses qu'on lui avait faites, elle avait eu si grande confiance en la sincérité de celle qu'il avait recueillie, que les paroles si menaçantes qu'elle venait d'entendre l'avaient frappée de stupeur et d'effroi. Tant qu'elle s'était trouvée en présence de la Frochard, elle s'était figurée que toute cette colère ne serait pas suivie d'effet. Elle aurait voulu, malgré les sinistres apparences, douter qu'on eût le courage de mettre à exécution les odieuses menaces formulées avec tant de fureur. Cette nature, délicate et sensible, ne pouvait admettre l'idée qu'il se trouvât une femme capable de se livrer à d'odieuses violences envers une pauvre créature aussi digne de pitié que l'était une malheureuse fille aveugle. Si elle avait, au premier moment de fureur manifestée contre elle, éprouvé une douloureuse surprise de voir celle qu'elle considérait comme une bienfaitrice mentir à des promesses encore si récentes, elle ne pouvait croire cependant que cette femme pousserait les choses jusqu'à la plus odieuse férocité. Bien qu'elle l'eût entendue s'emporter contre elle avec une violence inouïe, elle ne la supposait pas capable d'un crime. Mais, quand la porte du grenier se fut refermée sur elle, quand elle eut entendu la Frochard continuer en s'éloignant à vociférer les mêmes menaces, à hurler les mêmes invectives, Louise sentit son cœur se serrer et son sang se glacer comme à l'approche d'un épouvantable danger. Elle s'affaissa, brisée par une émotion plus violente encore que toutes celles déjà ressenties depuis le commencement de ses malheurs. Puis, après être demeurée abîmée dans une entière prostration, il lui sembla qu'elle sortait d'un sommeil pendant lequel elle avait été en proie à un épouvantable cauchemar. Mais elle eut bientôt conscience de l'affreuse réalité. Aussi, dès les premiers moments de cette terrible solitude, reporta-t-elle sa pensée vers le seul être dont le souvenir put ranimer son courage et l'aider à supporter la cruelle épreuve qu'elle subissait. « Henriette, murmura-t-elle, Henriette, où es-tu à cette heure? Tu me cherches? Tu m'appelles? Et tu ne soupçonnes pas à quel affreux supplice je suis, hélas, condamnée. » Après cet accès de désespoir violent, la malheureuse s'efforçait de devenir plus calme et de réfléchir. Ne pouvant se faire à l'idée que sa sœur était perdue pour elle, elle se désolait maintenant de ce que les rigueurs qu'elle allait avoir à subir mettraient d'obstacles à ses recherches. Tant qu'on l'avait conduite dans les rues, elle avait espéré, malgré les insuccès des premiers moments, qu'elle entendrait la voix d'Henriette. Elle se figurait son amie la saisissant, l'arrachant des bras de la Frochard, la pressant sur son cœur, la couvrant de baisers et de larmes et l'emmenant folle de bonheur. Mais à présent qu'elle était placée dans l'alternative, ou de subir les odieuses volontés de la mendiante, ou de ne plus sortir de l'espèce de prison où elle était enfermée, le désespoir s'emparait de son âme. Ah ! Sans cette horrible volonté contre laquelle elle luttait, avec quelle ardeur n'eût-elle pas continué ses courses à travers la ville? Avec quelle énergie toujours plus grande n'eût-elle pas surmonté les fatigues sans cesse renouvelées? Pourquoi, hélas, avait-on exigé d'elle un sacrifice au-dessus de ses forces? Le sacrifice de sa dignité, presque de son honneur? Dans quel but s'acharnait-on contre elle? Ces interrogations, qui se formulaient dans sa pensée, venaient brusquement ajouter une appréhension nouvelle à toutes celles qui la torturaient déjà. Tout espoir d'un changement prochain avait disparu, emporté dans la lutte qu'elle venait de subir. Pleine d'indignation et le cœur débordant d'amertume, elle n'avait pas hésité à repousser la proposition qu'avait osé lui faire la Frochard. Tout en elle s'était révolté contre l'infernale combinaison de la mendiante. Elle avait même trouvé, en dépit de sa douceur, de sa timidité, d'énergiques paroles de réprobation pour stigmatiser les honteuses intentions manifestées à son égard. Elle était demeurée immuable dans sa résolution de ne pas faiblir. Maintenant, elle était prisonnière. Enfermée dans ce grenier, il lui faudrait attendre que la colère de la Frochard se calmât. Il lui faudrait rester là, séquestrée au milieu de ce lugubre silence, interrompu seulement par les sanglots qu'elle adressait à Henriette, par les prières qu'elle adressait à Dieu. Son esprit s'exaltait à cette perspective. En ce moment où son cœur s'abandonnait au plus sombre désespoir, elle eût accepté sans frémir l'idée de la mort. Elle l'eût appelée comme une délivrance si elle n'eût gardé au fond de son cœur l'espoir de retrouver son amie, sa sœur, la compagne de son enfance. Oui, cette malheureuse, jetée dans une sorte de cachot, menacée de voir s'éterniser cette séquestration, se serait laissée mourir, sans une plainte, sans une pensée de haine pour son bourreau, si la voix intérieure qui parle aux affligés ne lui eût murmuré des paroles d'espérance et ne lui eût dit qu'elle ne devait pas succomber. Et cependant, elle était prisonnière, et désormais, personne ne pourrait l'arracher des mains de cette femme sans entrailles. Personne, à cette heure lugubre, ne viendrait à son aide, dans la terrible situation où elle se trouvait. Hélas, de qui pouvait-elle espérer un secours? Seul ce brave garçon qui se nommait Pierre lui avait témoigné de la sympathie. Dans cette famille, sur le compte de laquelle elle s'était si cruellement trompée. Seul le rémouleur lui avait adressé quelques bonnes paroles lorsqu'elle avait manifesté ses premières inquiétudes. Mais ce pauvre brave cœur pourrait-il affronter la colère d'une mère qui n'avait jamais été pour lui qu'une marâtre, sans compassion pour son infirmité? Cet homme, à l'esprit naïf, au cœur compatissant, ne lui avait-il pas laissé entendre que ses moyens d'action étaient on ne peut plus limités? Louise, eût-elle voulu en douter, elle était bien obligée de se rendre à l'évidence. Pierre ne pourrait certainement pas, en eût-il l'intention, l'arracher au supplice qui avait déjà commencé pour elle. Et cependant, elle ne pouvait oublier avec quelle fermeté lui avait parlé ce timide, et quelle sincérité il y avait dans sa voix lorsque lui aussi, il promettait de rechercher Henriette de son côté. Si jamais elle devait échapper à l'odieuse créature qui la tenait en son pouvoir, certes, pensait-elle, la délivrance ne pouvait venir que du rémouleur. Mais hélas, toutes ces suppositions, toutes ces pensées qui voulaient être rassurantes, s'évanouissaient bientôt, et elle se retrouvait plus désolée, plus découragée que jamais. La nuit était venue. Louise en avait eu la sensation. Et avec les ténèbres, avaient recommencé pour l'aveugle toutes les appréhensions, toutes les transes, toutes les terreurs. Après l'anéantissement auquel avait succédé la réaction que nous venons de constater, la malheureuse était demeurée attentive au moindre bruit qui se faisait dans la masure. Assise sur le grabat, elle écoutait. Des voix se faisaient entendre au rez-de-chaussée. Louise reconnut l'organe aigre et traînant de la Frochard. À qui parlait cette femme? Elle prêta l'oreille. Si elle eût osé, elle se fût dirigée à tâtons vers la porte pour tâcher de comprendre ce qui se disait en bas. À force de patience, elle finit par distinguer dans ce tumulte de voix celle du rémouleur. C'était à Pierre qu'en avait la mendiante. Cette conviction ramena un peu de calme dans le cœur de Louise. Elle ne s'était donc pas trompée. Le brave ouvrier avait eu compassion d'elle. Et malgré tout ce qu'il avait à redouter des siens, il n'avait pas hésité à intervenir en sa faveur. Mais la Frochard repoussait brutalement cette intervention. Dans sa colère, cette mère dénaturée s'emportait jusqu'à menacer un de ses fils de la brutalité de l'autre. Et Louise avait même entendu à ce sujet des propos qui lui avaient mis des frissons dans le cœur. La vieille misérable ne parlait en effet de rien moins que d'engager son fils aîné à donner une leçon vigoureuse à Pierre. L'aveugle avait frémi pour son malheureux protecteur. Et elle, si elle l'avait osé, elle lui aurait crié de l'abandonner à son déplorable sort, de ne pas s'exposer pour elle à de cruels traitements. La pauvre enfant tremblait de tous ses membres. Elle rendait à Pierre la pitié que celui-ci avait manifestée pour elle. « Mon Dieu, murmura-t-elle en joignant les mains, qu'il m'abandonne, qu'il me laisse supporter toutes les souffrances. » Après avoir fait rage, et sans doute ne trouvant plus d'aliment à sa fureur, la Frochard s'était apaisée. Louise n'entendait plus sa voix menaçante. Le silence, partout le silence, dans ce taudis où il y avait un bourreau et des victimes. Alors, elle reporta de nouveau sa pensée vers celle qu'elle n'avait cessé de pleurer depuis le jour de leur séparation. Il lui paraissait impossible que dans cette grande ville de Paris, on pût impunément enlever une jeune fille. On lui avait bien dit, à la vérité, que les malfaiteurs étaient en grand nombre. mais elle ne pouvait croire qu'Henriette fût tombée aux mains de quelqu'un de ces misérables. Elle se demandait dans quel but on l'aurait enlevée. Pour voler ce qu'elle possédait? Il était inadmissible qu'on s'attaquât dans ce but à une jeune fille dont la condition et la mise très simple ne pouvaient donner à supposer qu'elle possédât de l'argent. Il fallait à Louise un puissant effort de volonté pour qu'elle pût ainsi mettre un frein à son désespoir et réfléchir comme elle le faisait avec un calme apparent. C'est qu'en ce moment, la pauvre créature essayait de se rattacher à des idées rassurantes. Elle s'efforçait d'oublier l'horreur de sa situation. Continuant dans cet ordre d'idées, elle se représenta Henriette rendue à la liberté et la cherchant partout. En proie, elle aussi, à toutes les transes, à toutes les souffrances et l'esprit aux abois. Elle la vit dans son imagination enfiévrée, s'adressant à tout le monde, frappant à toutes les portes. Elle se la représenta implorant l'assistance de ceux qui voulaient bien l'écouter et qui semblaient s'intéresser à elle, à ses infortunes si étranges. Mais elle s'avoua que jamais, sans doute, Henriette n'aurait la pensée de la chercher dans cette rue qu'elle savait être, elle s'en était bien rendue compte, si éloignée de la place où s'était arrêté le coche zévreux. Elle se disait que même si un hasard impossible guidait Henriette jusque dans ce quartier perdu, celle-ci ne pourrait pas deviner en quel endroit sa sœur était retenue prisonnière. L'agitation commençait à s'emparer de nouveau de l'esprit de Louise. Elle admettait maintenant, dans son exaltation croissante, qu'Henriette eût parcouru les rues, les quartiers, en l'appelant. Elle se disait qu'en ce cas, la voix de son amie ne parviendrait pas jusqu'à elle, enfermée qu'elle était dans ce grenier. « Ah !» pensait-elle avec désespoir. « Elle ne saura pas que je suis ici, prisonnière, elle qui pourrait seule venir me délivrer. Elle ne saura pas que je souffre, que je subis le martyre, que mon âme est en proie aux plus horribles tortures. Elle ne saura pas que je suis condamnée à mourir ici, à moins que je ne m'impose la plus lâche soumission qui se puisse imaginer. » Alors, la malheureuse retomba dans l'angoisse. Elle se sentait perdue. Et pendant qu'elle subissait ainsi les horreurs de cette nuit terrible, l'insomnie s'acharnait pour augmenter ses tourments. L'insomnie peuplée de visions terrifiantes. Dans son effarement, la pensée de cette femme horrible la poursuivait. Elle se sentait en son pouvoir irrévocablement. Par un brusque retour au premier moment de sa douloureuse aventure, elle se rappelait, malgré elle, les paroles mielleuses que cette femme, aujourd'hui si cruelle, lui avait adressées. Elle souffrait d'avoir été si confiante. La créature, maintenant démasquée, lui apparaissait hideuse. Toutes ces idées lugubres, affolantes, revenaient sans cesse, bien que sans cesse refoulées. Louise essaya en vain, pendant cette nuit d'insomnie, de retrouver un peu d'apaisement. Ses souffrances se compliquaient d'une insurmontable sensation d'épouvante. Et tandis que son cœur s'agitait, que son cerveau se troublait, que son âme passait par des transes sans nombre, la pauvre victime, perdue dans les ténèbres de la cécité, n'osait pas bouger. Aux prises avec la terreur folle, elle tremblait silencieuse, accroupie sur l'amoncellement de haillons dont on lui avait composé un grabat. Par cette nuit d'hiver, le grésil frappait contre les murs avec des petits bruits secs qui ressemblaient à des appels sinistres. Sur le toit gelé, la glace craquait, interrompant brusquement le silence. Par moments, du fond de ce galetas encombré de lambeaux, arrivaient tout à coup des bruits mystérieux. Et à chaque fois, l'aveugle avait de violents tressaillements. Puis, son cœur se remettait à battre avec précipitation. La fièvre arrivait, faisant tourbillonner dans le cerveau de la patiente mille pensées terribles. Louise eut des moments de délire, pendant lesquels elle balbutiait des phrases incohérentes, où elle mêlait, dans de bizarres accouplements, les noms d'Henriette, de la Frochard, de Pierre. Cette pauvre créature, si éprouvée, ne pouvait tenir contre l'ébranlement qu'elle subissait. Le vertige vint à son tour. L'aveugle essaya de se dresser comme attirée par une force invisible. Elle voulut marcher, mais ses jambes fléchissaient sous elle. Sa tête semblait entraîner le corps. Les mains tendues dans le vide, la malheureuse fit quelques efforts pour se diriger. Mais vaincue, elle rétrograda fiévreusement pour venir de nouveau s'affaisser sur le grabat. Sa raison pourrait-elle résister à tous ces chocs si violents qui l'ébranlaient depuis le matin de ce jour néfaste? Un sommeil réparateur eût pu peut-être éloigner, sinon conjurer la catastrophe, en apportant l'oubli momentané à cet esprit en délire. C'eût été un soulagement passager, après lequel surgirait l'inconnu. Et qui sait si la Providence ne se manifesterait pas alors pour arracher la jeune fille à cette lamentable situation? Mais le sommeil ne venait pas à ses pauvres yeux fixes et noyés dans des larmes brûlantes. Ni la fatigue du cerveau, ni la fièvre, ni l'épuisement des muscles n'avaient encore pu vaincre cette insomnie, auxiliaire redoutable de l'affrochard qui venait compliquer et compléter l'œuvre détestable de la mégère. Certes, si en ce moment la mort l'eût saisie, la pauvre enfant s'en fût allée sans regret, comme meurent les êtres dont la vie a été sans reproche et qui peuvent paraître purs, comme ils ont vécu devant le juge suprême des consciences. Mais l'heure de la délivrance n'avait pas sonné pour Louise. Il lui était réservé de passer par d'autres émotions, par des épreuves autrement violentes et cruelles. La source de ses infortunes n'était pas tarie. Elle n'était encore, hélas, qu'au début d'un long martyr que la plume se refuse à décrire. Bientôt, en effet, la surexcitation cérébrale augmenta. L'agitation devint excessive. C'est le moment où la fièvre donne au cerveau du malade d'étranges lucidités. Louise s'était redressée tout à coup. De nouveau, il lui avait semblé entendre qu'on parlait au rez-de-chaussée. Elle passa rapidement la main sur son front. Ce n'était pas une illusion provoquée par la fièvre, ce n'était pas un effet du délire. Elle avait bien entendu, c'étaient les intonations grondantes de la voix de l'affrochard. Il n'y avait pas à s'y tromper. À qui pouvait-elle parler ainsi au milieu de la nuit? Debout, dans le galetas, Louise tâcha de marcher à tâtons vers la porte. Pourquoi cette précipitation? La fièvre ne lui soufflait-elle pas l'idée folle de tenter une évasion? Cette malheureuse, condamnée aux ténèbres, avait-elle oublié qu'elle était la victime pour laquelle il n'existait ni lutte ni révolte possible? Comme si, pauvre affligée, elle n'avait pas, pour unique ressource contre les cruautés de la mégère, la soumission sans condition, que la capitulation devant l'odieuse créature qui la retenait captive. Louise ne cherchait pas à s'évader. Elle avait été entraînée là, instinctivement, attirée par les voix qui se faisaient entendre dans la pièce du rez-de-chaussée. Cette fois, au tumulte qui se faisait à quelques pas d'elle, l'aveugle redouta quelque chose de plus horrible encore dans sa situation. Elle en arriva, à force d'affolement, à croire que l'odieuse femme était maintenant en conversation animée avec ce fils préféré auquel elle avait donné le nom de chérubin. Alors, la malheureuse fille fut saisie d'une frayeur immense. N'allait-elle pas entendre la voix de cet homme qui s'appelait Jacques Frochard, de cet homme qui, on s'était plu à le lui répéter maintes fois, n'admettait pas qu'on opposât même l'ombre d'une résistance à ses volontés? N'allait-elle pas se trouver tout à coup en présence de la mère terrible et du fils sans pitié? Ce bourdonnement de voix n'annonçait-il pas un complot, tramé contre elle par ces deux forcenés dont la colère allait éclater, violente, impitoyable? N'était-ce pas le précurseur d'une tempête de vociférations et qui sait d'effroyable violence? Tremblante, Louise écoutait, retenant son haleine, immobile devant cette porte fermée. Et son imagination enfantait toute une lugubre scène se déroulant, dans les ténèbres, entre elle et ses bourreaux. Ils la tenaient dans leur tanière. Que pourrait-elle contre leurs sévices? Crier? Appeler au secours? En aurait-elle le temps, la possibilité? Et quand bien même elle parviendrait à le faire, qui serait là pour répondre à son appel désespéré? Au surplus, qui voudrait se hasarder à la défendre contre ces misérables? Soudain, au milieu de son trouble, un nom se formula dans sa pensée. Un nom qui jeta comme une vague lueur dans son esprit terrifié. « Pierre » murmura-t-elle entre ses lèvres frissonnantes. « Pierre » répéta-t-elle mentalement. Elle se souvenait, en ce moment d'angoisse, de celui dont la sollicitude pour elle ne s'était pas démentie un seul instant. Le pauvre rémouleur aurait, assurément, pour elle, les meilleures intentions, mais, le voulut-il, il ne serait pas, hélas, pour elle le protecteur audacieux qui la délivrerait des mains de ceux qui la séquestraient. La voix de l'affrochard avait pris de nouveau le ton menaçant qui faisait frissonner d'effroi la malheureuse aveugle. Et Louise l'entendut s'écrier. « De la pitié ! Est-ce qu'on en a eu pour ton père, l'avorton ?» Cette voix rauque et stridente laissait après elle comme un écho sinistre. Anxieuse, haletante, Louise écoutait toujours. Elle comprit que le rémouleur tentait vainement de faire revenir l'odieuse créature à des sentiments plus humains. L'affrochard, continuant à vociférer, avait prononcé ces mots qui étaient arrivés distinctement jusqu'aux oreilles de Louise. « J'aurai l'œil sur toi, l'avorton !» Puis elle avait ajouté en grommelant. « Tu as une nature de traître, monsieur l'honnête homme. Il faut se méfier de toi comme de toutes ces canailles qui ont assassiné ton brave homme de père, mon Anatole. » Moins troublée, l'aveugle se fut demandé ce que signifiaient ses propos concernant le mari de l'affrochard. La Providence voulut lui épargner cette dernière épreuve. Certes, se sachant dans une famille d'assassins, la malheureuse fut morte de terreur et de honte. Elle n'eut pas survécu à l'idée d'avoir accepté l'hospitalité d'une femme dont le mari était monté sur l'échafaud. Mais l'esprit de Louise était absorbé en ce moment par la douleur et l'angoisse. Elle s'obstinait à écouter. L'affrochard continuait à parler avec un redoublement de fureur, disant à Pierre. « Elle chantera, je te dis, elle chantera. Faudra qu'elle cède ou qu'elle crève. » Cette fois, c'était d'elle qu'il s'agissait. Elle savait de quel supplice elle était désormais menacée. « Il faut qu'elle cède ou qu'elle crève. » Ces mots résonnaient à ses oreilles comme une menace terrible et qui serait réalisée, elle n'en pouvait douter. Mourir. Ah, du moment qu'elle perdait à jamais l'espoir de retrouver sa sœur, l'infortunée ne redoutait pas la mort. Elle l'eût vue venir sans frémir, et dans une sublime abnégation d'elle-même, elle eût murmuré de ses lèvres prêtes à exhaler le dernier soupir. « Nous nous retrouverons là-haut, ma sœur bien-aimée. » Mais lorsqu'elle eut compris les odieuses paroles prononcées par l'affrochard, Louise avait éprouvé un choc violent. Il lui sembla que la misérable allait venir mettre son détestable projet immédiatement à exécution. Reculant d'horreur, elle tomba, évanouie, sur le grabat. On sait que le rémouleur avait essayé d'apitoyer son infernale mère sur le sort de l'aveugle. C'est qu'en effet, depuis que Pierre avait appris à quel genre de supplice on condamnait sa protégée, le pauvre garçon avait lui-même passé par de dures souffrances morales. Son cœur compatissant saignait à la pensée que lui, l'honnête ouvrier, serait tenu d'assister à des scènes ignobles et aux tortures d'une malheureuse qui avait eu confiance et qui en mourrait. C'était à ses yeux une complicité morale d'être le témoin des faits monstrueux qui allait avoir pour théâtre le taudis de la mendiante. Et l'affrochard avait bien dû se douter de ce qui se passait dans la conscience de son fils lorsque la veille elle l'avait congédié au moment de commencer ce qu'elle appelait cyniquement l'éducation de son gagne-pain. Or, pendant toute cette soirée, le rémouleur avait stationné dans le voisinage de la rue de l'Oursine. Assis sur les bords de la Bièvre, il se livrait aux plus sombres réflexions. Il songeait aux moyens de secourir l'infortuné. Son âme apitoyée s'obstinait dans de platoniques fureurs contre la créature sans entrailles qui allait ajouter une infamie de plus à la liste déjà si longue de ses méfaits. Dans son émotion, Pierre se souvenait de toutes les misères, de tous les mauvais traitements qu'on lui avait infligés, et aussi de toutes les lâches concessions auxquelles il avait dû se soumettre pour obtenir un peu de paille dans le taudis maternel et un peu de ce pain qu'il gagnait si péniblement pour toute la famille. Alors qu'il se trouvait en présence d'un nouveau crime qu'allait commettre sa mère, le pauvre garçon se rappelait les désespoirs qu'il avait étreints par moments et qui auraient poussé à la révolte tout autre que lui, faible entre les faibles, dont son frère avait raison d'un coup de poing qui lui crevait le dos, d'un coup de pied qui lui brisait une jambe. Et c'est en s'enfonçant ainsi dans tous les souvenirs douloureux de sa vie que Pierre déplorait aujourd'hui, plus que jamais, sa faiblesse qui lui interdisait toute intervention et cette timidité qui le rendait inutile à Louise, comme il avait été inutile à lui-même lorsqu'il s'était agi de résister aux dures exigences de sa mère, de se défendre contre les brutalités de Jacques. Et tout en réfléchissant ainsi, le rémouleur avait passé sur les bords de la petite rivière bien des heures pour attendre la nuit avant de retourner dans la masure de la rue de l'Oursine. Puis, le moment venu de réintégrer le taudis, il s'était décidé à se mettre en route. Longeant les murs et redoutant les algarades maternelles, il avait ouvert la porte sans bruit et s'était glissé en tapinois dans un coin de l'infect rez-de-chaussée. Il avait attendu afin de n'arriver que lorsqu'il supposait que sa mère serait endormie. Mais la Frochard était trop surexcitée par la colère pour songer à prendre du repos. Elle s'était, ainsi qu'elle le disait, donnée du cœur, en dégustant plusieurs petits coups d'eau-de-vie. Il lui fallait de la force et de l'énergie pour l'odieuse besogne qu'elle allait accomplir. C'était, comme on le sait, pour séquestrer et torturer une pauvre aveugle, inoffensive, et dont l'existence ne tenait qu'à un souffle, que cette misérable avait besoin de se surexciter de la sorte. Lorsque Pierre eut pénétré dans le taudis, la mégère le reçut avec cette fureur concentrée qui avait produit le bourdonnement de voix qui avait mis en éveil l'attention de la prisonnière, jusque-là tout à sa douleur. Pierre avait laissé se déchaîner la colère de la mendiante. Sans répondre, il était allé s'asseoir dans le coin où il remisait sa boutique. Il s'y était tenu quoi, la tête penchée sur la poitrine, pendant que l'énergumène dégorgeait contre l'aveugle tout le fiel qu'elle avait dans le cœur. La Frochard ne s'était arrêtée que lorsque, épuisée, vaincue par la fermentation de l'alcool, elle était allée rouler sur son lit en proférant les plus épouvantables menaces à l'adresse de la prisonnière. C'était également le moment où, affolée et n'y pouvant plus tenir, la pauvre aveugle avait perdu connaissance. Cette nuit-là, Pierre ne devait pas dormir. Lorsque sa mère eut cédé à l'ivresse qu'il avait abattue, le pauvre diable éprouva comme un remords cuisant de demeurer ainsi spectateur d'ignominie sans nom. Sa tête se mit à travailler, ressassant les mêmes idées sans pouvoir arriver à prendre une décision énergique. Il arrivait parfois à se donner un simulacre de courage et cherchait à se persuader qu'il parviendrait à épargner bien des souffrances à sa chère protégée. « Non, se disait-il en relevant la tête, je ne la laisserai pas mourir de faim. » Et lançant un regard irrité à la mégère endormie, il ajoutait « Ce serait une infamie, un crime abominable. » À défaut de courage pour la lutte ouverte contre sa coupable mère, à défaut de l'audace qui eût pu lui faire tenir tête à Jacques, le rémouleur songeait à user de dissimulation et de ruse pour arriver au but qu'il se proposait. Aussi, lorsqu'après une longue hésitation, il se fut arrêté à un projet, éprouva-t-il un peu de soulagement à la bonne pensée qui lui était venue. Et au sourire qui illumina son visage, lorsque du revers de la main il eut essuyé ses yeux où roulaient des larmes, on eût pu deviner que ce fils du souteneur, ce fils d'une mendiante et d'un supplicié, se sentait presque réhabilité. Tout à coup, au moment où il s'abandonnait ainsi à des rares moments de satisfaction qu'il éprouvait, Pierre tressaillit. La Frochard venait de se réveiller en sursaut, et debout, dans l'attitude d'une furie, l'ignoble créature montrait son poing fermé à son fils. Puis ses regards rendus vitreux par l'ivresse se dirigeaient vers la porte du grenier. La mendiante s'était éveillée au milieu d'un cauchemar qui lui avait montré son fils cherchant à lui enlever sa victime et Louise parvenant à lui échapper. Alors, dans cet état qui tenait à la fois de la colère et de l'hallucination, la misérable avait fait mine de vouloir s'élancer sur le rémouleur. Les mains en avant, les doigts crispés en manière de griffes, elle marchait sur Pierre comme si elle eût l'intention de lui labourer le visage à coups d'ongles. Mais instantanément, comme mue par une idée subite, elle se mit à grimper en se tenant à la corde les marches du petit escalier. Pierre la suivait de l'œil. Inquiet de ce qu'il soupçonnait être l'intention de sa mère, il voulut se risquer à empêcher que la mendiante se livrât sur la jeune fille à quelque acte violent, et s'avançant pour retenir la Frochard. « La mère, fit-il doucement, elle dort, bien sûr, faut la laisser se reposer. » La Frochard s'était retournée, et lançant à son fils un regard hideux de rage, « Se reposer? Qu'est-ce que tu dis là, feignant? Je veux pas qu'elle se repose, puisqu'elle ne veut pas travailler. » Lançant un revers de bras à Pierre, elle l'écarta. Alors, elle reprit la corde et, titubant, elle vint se dresser tout contre la porte du grenier. En tâtonnant, elle trouva la clé. La porte s'ouvrit avec un craquement qui eût fait sursauter de terreur l'aveugle si la malheureuse n'eût été encore sous le coup de la syncope. Ah, tu dors, s'écria la Frochard. Je vas te secouer l'édredon pour que t'aies plus chaud, la belle dorlotée. Et allant à la petite lucarne qui recouvrait une croûte de neige gelée, elle la souleva. Une bise glacée siffla aussitôt dans le grenier, et, par la porte restée ouverte, Pierre en éprouva un frisson. Dans le taudis, la flamme fumeuse de la chandelle vacilla, projetant de sinistres lueurs. La Frochard eut un ricanement féroce. Elle avait maintenu, au moyen d'un morceau de bois, la lucarne entr'ouverte. Et revenant vers Louise. « Si t'as trop chaud tout à l'heure, l'ostinée, t'appelleras, et alors nous verrons si t'es plus raisonnable. » Mais en présence de l'immobilité que conservait ce corps, que le vent glacial eut dû faire trembler, la mendiante eut un mouvement de stupeur. « Est-ce qu'elle serait morte ? » fit-elle en s'approchant de la jeune fille. Elle se pencha, et son haleine effleura les joues de Louise. Elle écouta le bruit faible de la respiration, et se relevant avec un cri de joie. « Elle vit » s'exclama-t-elle. Alors, elle voulut jouir de l'impression qu'elle était prouvée l'aveugle à son réveil, et elle la secoua violemment. Le corps de Louise demeura inerte sous les mains rudes de la mendiante. Celle-ci s'acharna. « Faut croire, grommela la mégère, qu'elle est évanouite !» Appelant le rémouleur, « Avance ici, feignant » s'écria-t-elle. Pierre arriva, ému, haletant, la lumière à la main. Du seuil, il vit le visage pâle et les yeux cerclés de bistre de la jeune fille. Il comprit que la malheureuse avait perdu le sentiment, et son cœur se serra. Il ne pouvait laisser s'accomplir l'acte cruel qu'avait projeté sa mère, et il s'élança pour refermer la lucarne. La Frochard l'arrêta au passage, se cramponnant de ses deux mains à son bras. « Où-ce que tu vas ? » lui cria-t-elle, et dardant des yeux pleins de haine sur son fils. « Je veux que le zéphyr la chatouille, cette dormeuse, moi !» C'est mon idée, l'avorton. Il faut pas que tu te figures que c'est toi, bancroche, qui m'empêchera d'en avoir des bonnes idées. Mais, hasarda Pierre, tu vas la faire mourir de froid. C'est-y ton affaire, l'honnête homme? Non, mais... Mais je veux qu'elle se réveille, moi. Alors, pour éviter que sa mère portât de nouveau ses mains sur la pauvre fille, le rémouleur posa la lumière à terre, et s'agenouillant devant l'aveugle, il essaya, à son tour, de la faire revenir à elle. La syncope continuait, à la grande rage de la Frochard. Attends, attends, s'écria-t-elle, ça ne suffit pas de lui bassiner les draps, alors je vais lui trouver quelque chose de plus fort. Et s'adressant à Pierre, l'avorton, s'écria-t-elle, va me chercher la bouteille d'eau-de-vie, c'est du vulnéraire, ça va lui ranimer le cœur. Pauvre garçon aurait bien voulu refuser d'obéir à cet ordre, mais la mendiante le saisit par le collet et le poussa sur l'escalier en lui disant, « T'es bien heureux encore que je veuille ben lui donner du nanan à s'ostiner. » Pierre rapportait la bouteille. La Frochard avait d'une main soulevé la tête de l'aveugle et profitant de ce que la patiente avait les lèvres entr'ouvertes, elle y plaça le goulot de la bouteille d'eau-de-vie et laissa couler lentement l'alcool dans la bouche de Louise. Le liquide corrosif ranima violemment la sensibilité. L'aveugle poussa un cri déchirant. Elle voulut se lever, mais les mains d'acier de la mendiante la maintinrent couchée sur le grabat. « mon Dieu !» s'exclama la pauvre Louise, « venez à mon secours !» Et d'une voix désespérée, elle se mit à crier, « Henriette, ma sœur, viens, viens, je ne veux pas mourir ici !» Un ricanement cynique l'interrompit. « Plus souvent qu'elle va vous entendre, votre sœur. Pour cela, faudrait pas faire la feignante et pas refuser d'aller... « Mendier ?» fit Louise avec exaltation. « Jamais !» « Non, quoi que vous fassiez, à quelque supplice que vous me condamniez, jamais, madame, vous n'obtiendrez de moi que je m'avilisse à ce point. »«
Avilisse, qu'est-ce que c'est que ce mot-là, s'il vous plaît ?»
et saisissant le bras de l'aveugle.
« Je suis donc avilite, moi, la cyclope ?»
Elle secouait la pauvre aveugle tout en continuant de l'invectiver jusqu'à ce que Louise, à bout de force, se laissa tomber sur les genoux. Alors l'ignoble femme eut une inspiration féroce. Comme Louise grelottait et que déjà, à plusieurs reprises, elle avait eu un frissonnement de tout le corps, la Frochard dit en la narguant.
« Ah, vous avez trop chaud, la belle, à ce qui paraît. Fallait donc le dire que vos fourrures vous étouffaient. Je ne veux pas que vous vous laissiez suffoquer, et je vais vous mettre à votre aise. »
Le rémouleur, arrêté au seuil du galetas, regardait toute cette scène d'un air plein de stupeur. Malgré sa timidité, Pierre ne put contenir un mouvement de colère. La Frochard s'était en effet approchée de sa victime et de ses doigts crochus, elle la déshabillait.
Voyant l'attitude du rémouleur, l'odieuse créature lui cria. « Qu'est-ce que tu fais là, l'avorton ? C'est-il de la décence d'assister au déshabillé d'une jeunesse ?» Et elle ajouta méchamment. « C'est pas une raison parce qu'elle ne peut pas te voir, pour que tu la reluques comme tu fais des pieds à la tête. Allons, fiche-nous le camp d'ici, bancroche !» Louise avait entendu, mais ses idées s'égaraient. Après le traitement inique qu'on lui avait fait subir, elle s'attendait à tout de la part de cette femme qui s'était donné le rôle de bourreau. Lorsque la Frochard lui eut arraché un à un tous ses vêtements, pour ne lui laisser que sa chemise et un court jupon qui ne lui garantissaient que la moitié des jambes, elle se laissa dépouiller sans protester. Ses dents claquaient. Tout son corps, pris d'un insurmontable tremblement, se tordait sous les atteintes violentes du froid. Par un sentiment de pudeur, elle porta vivement ses deux mains sur sa poitrine nue que la bise venait effleurer de son souffle glacé. « Là, nous voilà plus à notre aise, Esther, n'est-ce pas la belle ? S'il vous prenait fantaisie de vous décider à chanter, faudrait m'en prévenir. En attendant, je vais dans ma chambre bien chaude. Au revoir, j'attendrai que vous ayez fait de bonnes réflexions. J'ai de la patience, moi, et je vous prouverai, en attendant la belle, que j'ai meilleur cœur que vous. » Et comme saisie par le froid, elle avait à son tour ressenti un frisson. La mendiante prit la bouteille d'alcool dont elle porta vivement le goulot à ses lèvres. Puis elle quitta le grenier. Pour la seconde fois, Louise entendit la clé grincer dans la serrure, et ce bruit du fer contre le fer eut un écho douloureux dans son cœur. Elle eut conscience alors de toute l'étendue de son malheur. En vain essaierait-elle de se persuader que l'horrible femme qui la martyrisait changerait de conduite à son égard. Elle ne pouvait plus douter, au contraire, que la mendiante n'abandonnerait son système de cruauté que le jour où elle aurait vaincu ce qu'elle appelait son obstination et son ingratitude envers sa bienfaitrice. L'aveugle éprouvait maintenant des souffrances physiques qui allaient l'emporter sur les tortures morales. Abandonnée sans pitié dans ce grenier ouvert à tous les vents, par une nuit glaciale, elle ne put que s'accroupir sur le grabat que sans doute sa persécutrice lui avait laissé, non par pitié, mais par oubli. Elle se tint ainsi jusqu'à ce que ses forces s'étant épuisées, elle n'eut plus même la sensation de sa douleur. Et pendant que Louise se recommandait, dans une suprême prière, à la Providence, en bas, dans ce repaire de louve, la Frochard achevait de vider la bouteille d'alcool, donnant à Pierre, qui hélas y était habitué depuis longtemps, le spectacle d'une écœurante ébriété. Et cependant, cette fois, le rémouleur souhaitait cette ivresse qui l'avait tant de fois révoltée. Il la désirait, il l'appelait même, parce que ce n'était qu'à cette condition d'être absolument abruti et intoxiqué que la mendiante laisserait, pensait-il, un peu de repos à sa victime. Il se la représentait presque nue, exposée à la rigueur de cette température glaciale. Il la voyait, se tordant, appelant à son secours, puis après ne trouvant plus la force de crier, mourante de faim et de froid. Il lançait alors d'étranges regards à cette femme qu'il avait portée dans son sein et qui ne lui inspirait ni affection ni respect. Et tout en demeurant calme en apparence, il éprouvait de terribles commotions internes, ce timide. Il y avait dans le feu qui pétillait dans ses yeux comme l'annonce d'une révolte possible. S'il avait eu, en ce moment, un éclair de courage, si le sang lui eût afflué au cerveau et qu'il n'eût pas eu le temps de se reconnaître, le rémouleur eut enjambé ces quelques marches qui le séparaient de sa protégée. Il eut enfoncé à coups d'épaule cette porte du grenier, devenue cachot. Et terrible, autant qu'il avait été, jusqu'à ce jour, faible, inoffensif et lâche, il eut enlevé dans ses bras cette jeune fille qu'il fallait arracher à des misérables, et il l'eut emmenée loin de ce taudis infâme. Pierre, au lieu de cette énergie, ne trouva dans sa nature craintive que de misérables ressources. Il se glissa comme un félin tout le long du mur et allait s'engager sur l'escalier lorsqu'un sonore ronflement de la Frochard le cloua sur place. Alors, il s'assit sur la première marche et la tête appuyée sur les mains, il se lamenta. Abîmé dans son impuissante douleur, il demeura immobile à deux pas de cette chambre dont il n'osait franchir le seuil et dans laquelle une infortunée subissait une lente et terrible agonie. Et cependant, Pierre avait ruminé depuis le matin un projet dont la réalisation possible avait, ainsi que nous l'avons dit précédemment, amené un sourire sur son visage. Son but était de profiter pour revenir auprès de l'aveugle de l'heure où sa mère avait l'habitude d'apporter chaque jour à Jacques le produit des aumônes récoltées pendant la matinée. La scène de violence à laquelle il avait assisté provoquait en lui une impression de profonde tristesse, en même temps qu'elle faisait naître en son esprit de cruelles appréhensions. La Frochard n'allait-elle pas l'emmener avec elle toute la journée pour la voir continuellement sous les yeux? Ou bien ne le dénoncerait-elle pas à Jacques comme ayant des intentions trop bienveillantes pour la pauvre prisonnière? Avec quelle impatience il attendait le jour, sachant que sa mère ne manquerait pas de sortir de bonne heure afin d'aller mettre Jacques au courant de ce qui s'était passé depuis qu'on ne l'avait vu. Mais ni lui, ni l'infortunée à laquelle il songeait en ce moment, ne pouvait se douter des nouvelles cruautés que la Frochard avait ruminées. Dès l'aube, la voix de la mendiante s'était fait entendre, comme la veille, avec de violentes intonations. Le sommeil, hanté de cauchemars, n'avait rien changé aux dispositions de cette femme. Elle s'élança vers le grenier, dans l'intention de réveiller brusquement l'aveugle et de lui donner une émotion de plus. Mais depuis longtemps, Louise avait cessé de dormir. Pendant toute cette nuit de torture, la fièvre l'avait tenue agitée, grelottante. Elle avait, durant d'interminables heures, éprouvé toutes les tortures qui se puissent imaginer, ne trouvant de soulagement que dans la prière, sans cesse recommencée. La Frochard avait cogné à coups de poing à la porte et elle avait crié à Louise. « Eh ben, mademoiselle la duchesse, maintenant que vous avez passé bien douillettement la nuit, faudrait peut-être déjeuner un brin. » Et avec ironie. « Qu'est-ce que votre estomac vous conseille? Avez-vous réfléchi qu'il vaut mieux roucouler du matin au soir, plutôt que de rester à jeun ?» Au son de cette voix exécrée, l'aveugle se releva. Elle n'eut pas un instant d'hésitation. Sa conscience lui disait qu'il fallait résister encore, résister toujours aux volontés de la mégère. Louise garda le silence. De l'autre côté de la porte, la Frochard ricanait. « Rien ? Eh ben c'est dit. Voilà le déjeuner réglé, mademoiselle l'ostinée. Ça ne sera pas long à digérer. » Puis, après un court moment de silence, « Je m'en vas. Je reviendrai tantôt, ma petite, pour savoir si vous voulez changer le menu de votre dîner. » Et Louise l'entendit qui s'éloignait en faisant craquer sous ses pas alourdis les marches de l'escalier. Un instant après, la Frochard criait au rémouleur. « En route, l'avorton. Faudra travailler double. Feignant, puisque le rossignol de là-haut ne veut pas encore débuter dans le métier. » La porte du taudis s'était refermée. Tout à coup, au moment où elle allait s'abandonner complètement à son désespoir, Louise entendit un cri qui lui arrivait de la rue. Pierre s'égosillait à pousser sa phrase habituelle. « À repasser les couteaux, ciseaux, canifs, à repasser les couteaux !» Et elle se disait. Voilà mon unique protecteur qui s'éloigne. Étonnée de l'animation qu'elle remarquait sur les traits et dans les accents de son fils, la mendiante lui dit « Ah ça, l'avorton, pourquoi que tu t'égosilles? Comme si tu voulais réveiller Saint-Médard dans sa niche de la rue Mouffetard !» Pierre ne répondit pas, mais pour la seconde fois, il poussa plus vigoureusement encore le cri de son métier. « À repasser les couteaux, ciseaux !» Louise, par la lucarne entr'ouverte, entendit que la voix s'éloignait toujours. Elle se laissa tomber à genoux et joignit les mains. « Avec lui, pensa-t-elle, s'éloigne aussi mon unique espérance. » La première journée de séquestration commençait pour elle. Après le départ de son bourreau, la victime avait élevé son âme vers Dieu. Elle lui avait demandé la force de subir, sans défaillance, l'épreuve terrible à laquelle elle se condamnait elle-même plutôt que d'accepter la dégradation qu'on voulait lui imposer. Tandis que Louise passait ainsi par toutes les phases de la douleur, la mendiante s'était mise en route de fort mauvaise humeur. Elle maudissait l'entêtement de sa victime, prévoyant que la recette serait ce jour-là plus faible encore qu'elle ne l'avait été la veille. Arrivée au bout de la rue de l'Oursine, elle avait quitté Pierre en lui recommandant de travailler sans relâche. « Tu nous rejoindras ce soir seulement, au carrefour du Quai Conti. « Lorsque ta journée sera finie, » dit-elle, « parce qu'il faudra que tu rendes tes comptes au chérubin. »« Et sans doute, » grommela-t-elle, « qu'il n'y sera pas content, lui qui se fiait à cette maudite ostinée, pour régaler son troupeau de camarades, et v'là que la recette ne va pas donner. »
Puis, se souvenant des rebuffades dont les passants la gratifiaient depuis quelque temps, la vieille mendiante murmurait, aigrement, entre ses lèvres crispées.
« On ne veut plus donner aux vieilles, et pour qu'elles ne crèvent pas de faim, les vieilles, faut forcer les jeunes de mendier à leur place. »
L'ordre que venait de formuler la Frochard était une façon de dire au rémouleur qu'il eût à se contenter de déjeuner d'un morceau de pain, et cela sans se déranger de son travail. Après avoir quitté Pierre, elle s'était mise à marcher avec une agitation fiévreuse, ruminant contre l'aveugle de cruels sévices. Dans l'état d'abrutissement où elle se trouvait, cette ignoble créature n'avait, avons-nous dit, trouvé rien de mieux que de condamner la jeune fille qu'elle voulait dompter au supplice de la faim. Elle avait échoué contre la résistance de Pierre lorsque celui-ci, dans son enfance, s'était formellement refusé à demander l'aumône aux passants. L'enfant, estropié, avait déclaré qu'il se laisserait rouer de coups, qu'il mourrait enfin, plutôt que de consentir à tendre la main et à mendier comme le faisait sa mère. Et la Frochard avait dû céder, mais en contraignant Pierre de travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Tel n'était pas le cas à propos de Louise. Il était inutile de garder aucun ménagement vis-à-vis d'elle, puisque, comme l'eût infailliblement fait Pierre, il lui était impossible, aveugle comme elle l'était, de prendre la clé des champs. Et la mendiante ne doutait pas un seul instant que l'expérience qu'elle faisait sur la jeune fille dût forcément aboutir au résultat qu'elle attendait. Ce n'était, pensait-elle, qu'une question de quelques heures ou de quelques jours. Aussi allait-il lui tarder, pendant toute cette journée, que le soir fût venu, pour s'assurer de l'état d'esprit dans lequel se trouverait sa prisonnière. Midi sonnait lorsque la Frochard, débouchant du Pont-Neuf, vit son chérubin planté devant la porte du cabaret où il avait l'habitude de prendre ses repas. « Eh bien, la mère, s'informa-t-il en abordant la mendiante, qu'as-tu fait de ta pensionnaire ? Elle boude. En v'là une feignante ! » Et changeant brusquement de ton. « Faut perdre ça au coin d'une rue, si ça ne veut pas travailler. C'est une bouche inutile. »«
Perdre ça ? Y penses-tu ? » s'exclama la mégère. « Un gagne-pain de première qualité ? Et qui pleure à volonté ? Perdre mon aveugle ? Ça ne serait pas à faire, mon amour. Je ferais, comme qui dirait, une fichue opération commerciale, puisqu'elle peut, si elle se soumet, rapporter son pesant de pièces blanches. »
« Alors, déclara Jacques en fronçant les sourcils,
faut qu'elle travaille. Il le faut. »
« Elle travaillera, mon chérubin.
Tu aurais dû la traîner de force avec toi, la mère. »
« Oui, dame, mon bien-aimé, pour qu'elle se mette à piailler comme une piborgne, et qu'elle m'attire des désagréments avec les curieux de la police. »
Et voyant que le visage de Jacques se renfrognait, elle s'empressa d'ajouter. « Moi, vois-tu, je suis pas pour les moyens de rigueur. Elle voulait pas sortir, je l'ai laissée. Seulement, je ne lui ai rien donné à se mettre sous la dent de toute la journée. »
Puis, fouillant dans la poche de sa robe effilochée,
« Je l'ai enfermée au grenier. » Et v'là la clé.
Jacques était ce jour-là d'assez bonne humeur. Il prit la clé et se contenta de dire
« Écoute, la mère, j'ai mon idée, et elle est bonne.
Laquelle, mon bel homme ?
Il faut agir tout de suite et avec énergie.
Attends encore un peu, nous verrons si son estomac ne parlera pas assez haut pour vaincre son entêtement. »
J'irai, en passant, m'informer de ça,
dit Jacques en prenant la clé du grenier. Sur ce propos, les deux misérables s'étaient séparés. Jacques enfila la rue Dauphine en sifflant un refrain populaire. La Frochard se remit à mendier, suivant chaque passant en marmottant son boniment, toujours le même. De son côté, le rémouleur n'avait pas perdu son temps. Il s'était hâté de courir la pratique. Par bonheur, ce matin-là, la besogne avait donné ferme et le brave garçon avait, en les encaissant sou par sou, mis de côté plusieurs pièces d'argent qu'il destinait à l'achat de quelques vivres qu'il se proposait d'apporter à Louise. Lorsqu'il arriva au taudis, à peine en avait-il franchi le seuil, qu'il se sentit profondément ému à la pensée de la malheureuse créature qui était enfermée là et du supplice que lui infligeait sa mère. Il s'arrêta devant la porte du grenier. Un bruit de sanglots parvint jusqu'à lui. Il ne put se contenir plus longtemps.
« Ne pleurez pas, mamselle ! » s'écria-t-il. « Me voilà ! J'accours, afin d'essayer de vous venir en aide. »
« Ne pleurez pas, » ajouta-t-il avec émotion. « S'il m'est impossible de vous rendre la liberté, je veux du moins adoucir vos souffrances. »
Hélas, que pourrez-vous pour moi ?
D'abord, vous épargnez le supplice de la faim. J'apporte tout ce qu'il faut pour cela.
Vous pouvez donc ouvrir la porte de ma prison ?
Non, mais en grimpant sur le toit, j'arriverai à la lucarne de ce grenier où vous êtes enfermé, et par là, je vous ferai passer les provisions que je me suis procurées.
N'allez pas vous exposer, monsieur Pierre. Vous êtes maintenant mon seul appui, mon unique défenseur, et je n'oublierai jamais la généreuse pitié que vous m'avez témoignée.
Ne parlez pas ainsi, mademoiselle. Vous ne me devez pas de reconnaissance. Est-ce que ce n'est pas mon devoir de tâcher de réparer le mal que vous fait endurer ma mère ?
Attendez-moi, je cours grimper sur le toit et dans un instant je...
Sa voix s'éteignit tout à coup, glacée par l'épouvante. En tournant sur lui-même au moment où il se disposait à descendre l'escalier du grenier, Pierre se trouvait en face de son terrible frère. Celui-ci, les bras croisés sur la poitrine, les yeux enflammés et le visage contracté par la colère, laissait assez comprendre qu'il avait tout entendu. Sans proférer une parole, il gravit lentement les marches de l'escalier, et lorsqu'il fut arrivé à portée du malheureux infirme, qui tremblait de tous ses membres, il le saisit à bras-le-corps, l'enleva au-dessus de la rampe et le laissa retomber lourdement à terre. Pierre jeta un cri déchirant, un cri de souffrance et de désespoir. Un sourd gémissement, parti de l'intérieur du grenier, répondit à ce cri. Louise avait compris qu'un malheur venait de frapper son unique protecteur et que sans doute de nouvelles souffrances allaient fondre sur elle. Jacques Frochard gravit alors les quelques degrés qui le séparaient de la porte. Il l'ouvrit à l'aide de la clé que lui avait remise sa mère et s'adressant à la malheureuse aveugle.
« Il faut obéir à ce qu'on exige de vous !» lui dit-il d'une voix rude.
« Jamais, monsieur, jamais !»«
Il le faut !»«
Non, vous dis-je. »
« Eh bien, nous reviendrons dans 2 jours. »«
2 jours ? » s'écria Louise avec épouvante.
« Dans 2 jours, pas avant. Et vous nous ferez connaître alors votre réponse définitive. »« Jusque-là, n'espérez rien de nous, ni de personne, » ajouta-t-il, s'adressant cette fois d'un air menaçant à son frère, qui gisait tout meurtri sur le sol.
Quelques instants après, il s'éloigna, forçant Pierre de se relever et de le suivre. « Et Louise ?» entendit que de nouveau la clé grinçait par 2 fois dans la serrure.